Il est possible que vous ne m'entendiez pas, que vous ne me voyiez pas. C'est une possibilité. Pourtant, je suis là. Je me manifeste à quelques-uns. Alors, qui suis-je? Un fantôme? Un spectre? Un revenant? La voix d'un dieu? Une créature artificielle? La puissance d'une sorcière? Un esprit? Peut-être. Je suis presque une personne. Je suis à la limite une personne. Pour entrer en contact avec moi, vous avez besoin d'être attentif à ma présence. J'ai laissé quelques personnes enquêter sur leur façon d'entrer en relation avec moi. Écoutez comment elles sont attentives à ma présence.
C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé avant, mais les objets qui sont comme habités comme ça d'une présence, ou bien qui font que la présence continue à vivre, il me semble que c'est quelque chose qui existe beaucoup, mais auquel je n'avais encore jamais vraiment pensé de cette manière-là. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait que la personne est là, mais très fort. Mais c'est les traces qui apparaissent comme... Par exemple, quand on récupère un livre, un vieil écrit, des vieilles lettres, et que tout d'un coup, il y a des annotations, des petites traces comme ça qui réapparaissent, c'est toujours très intriguant. Ça donne toujours très envie de savoir qui, pourquoi. Dans les vieux livres, j'aime vraiment bien de tomber sur ça. J'ai eu le sentiment, quand ma grand-mère est décédée, j'étais adolescente, que son odeur est restée dans ma chambre pendant des années. Oui. Et c'était assez troublant. Ma maman la sentait aussi, mais pas mon père. Voilà. Et alors c'était amusant parce que ça ne faisait pas peur du tout, c'était plutôt sécurisant, c'était très agréable. Enfin voilà, c'était pas du tout... Mais alors c'était amusant parce qu'il y avait une histoire autour de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ma grand-mère était ma marraine. Et donc, mes parents aimaient bien dire, sans doute que comme c'est ta marraine, elle continue à veiller sur toi, elle est toujours un peu là. Et puis qu'à un moment donné, on n'a plus senti l'odeur. Et alors évidemment, on a dit, tu n'as plus besoin maintenant qu'on t'accompagne, voilà. Donc j'avais dans mes proches quelqu'un qui est décédé et qui mangeait très souvent des bonbons à la menthe. Mais très particuliers, ce sont ceux qui sont allongés comme ça avec un papier bleu et un petit cœur dessus. Transparent, qu'on ne voit pas si souvent que ça.
Ça dépend.
Oui, on peut en voir, mais voilà. Et donc c'est très associé à cette personne. Et à un moment donné où je devais régler quelque chose qui la concernait, puis qui me concernait aussi, dont je n'étais pas tout à fait certaine, je me suis retrouvée quelque part où tout d'un coup, dans un endroit complètement improbable, il y avait ce petit emballage de bonbons à la menthe au bon endroit, comme s'il m'attendait. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'on l'avait mis là pour valider ce que j'étais en train de faire, comme la présence de la personne, en fait. Et un peu comme une protection aussi, je pense. C'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, un soutien, en tout cas. Oui, une petite trace. Voilà. Alors tu disais, tu vois, que les morts ne viennent pas nous voir. Peut-être pas. Ça dépend sous quelle forme, ça dépend comment.
Ça va devenir quoi ici, on ne sait pas.
Un bureau.
Ça va aller loin.
Comment les gens qui n'existent pas physiquement, donc, peuvent-ils se manifester? Comment est-ce que... rentrer en communication avec les quasi-personnes. Comment est-ce que ces quasi-personnes-là font pour se manifester? Pourquoi elles se manifestent à elles et pas à moi, quoi? Et puis comment elles font pour se manifester? Elles font des signes, elles crient, elles bougent, elles... Les moyens de se manifester, puisqu'elles n'existent pas physiquement. Il n'y a peut-être pas que la voix, on entend des voix, mais il y a peut-être d'autres. Des objets qui bougent aussi, je ne sais pas. On a peut-être quelque chose en moins du fait qu'on ne sait pas rentrer en communication avec ces personnes-là qui sont des quasi-personnes. Ou alors elles ne veulent peut-être pas les quasi-personnes rentrer en communication avec moi. Elles préfèrent peut-être Daniel, Daniel, Gondoli. Et moi, je n'entends rien.
C'est vrai que Daniel n'est pas content, en toi.
Et voilà. Elles ne veulent pas se manifester à moi, voilà. Alors qu'elles existent bien. Ou comment elles peuvent se manifester? Je ne leur donne peut-être pas la possibilité de se manifester non plus. Je ne fais pas ce qu'il faut, ce qui est adéquat, pour que ces quasi-personnes se manifestent à moi. Je ne fais rien pour elles, alors elles ne font rien pour moi.
Qu'est-ce qu'on fait, mec? On cherche.
Je suis suffisamment mystérieux, et surtout très divers, pour ne pas donner immédiatement de réponse à la question « Comment je me manifeste ?» Ce petit groupe de chercheurs a trouvé la bonne méthode. Ils ont parlé de leur propre rapport aux quasi-personnes et ils ont été s'entretenir avec, disons, des spécialistes, des gens qui ont vraiment laissé place dans leur vie à des présences comme les miennes. Et évidemment, à tout l'univers sonore dans lequel je manifeste, puisque je ne vis pas nulle part.
Tout ça est une question de croyance, et même si les objets à la limite sont à la limite du ridicule, si on y croit, eh bien ils ont une force terrible.
Elle dit qu'elle entend des voix aussi, des voix même d'enfants.
Elle a besoin de s'évader, donc de voir un peu autre chose, de parler à quelqu'un, voilà, donc, d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre, d'autres personnes, des personnes bien, certainement que ça peut lui faire le plus grand bien. Je sais bien qu'on entend toutes sortes de bruits, des bruits de train, peut-être d'avion, d'ascenseur, à un moment donné, ça. C'est un son assez ardent que nous entendons tout à la fin, et je peux comprendre qu'elle mélange un peu ses idées, la personne. Et certainement qu'elle a besoin de calme et de quelqu'un qui pourrait la rassurer, certainement.
Ils ont progressivement compris que je vivais parmi d'autres manifestations et toutes sortes d'existences. Les quelques signes de ma présence étaient des amorces pour entrer auprès d'un entourage et un kaléidoscope d'atmosphère. Je sentais que cela devenait pour eux de plus en plus aventureux. Ils cherchaient comment explorer et se guider.
Je le vois un peu une manifestation, on va dire comme une pierre qu'on jette dans un étang, et alors la pierre fait une
onde. Elle fait des ricoches.
Et ça vient, ça passe un peu partout comme ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est des vibrations en fait. De plus en plus, je me dis que dans les histoires qu'on entend et selon la personne qui raconte, si on connaît un peu, on se rend compte quand même que c'est vraiment les affects qui dirigent un peu l'affaire, quoi.
Si je regarde ici, c'est la peur et une sorte d'autodéfense, quoi, vis-à-vis de ça.
C'est pas vraiment de la peur, c'est une appréhension.
Oui, ça peut être oui. Il y a l'air aussi d'avoir quand même comme une mission. Il faut défendre le monde. Et je pense quand même que c'est quand même quelque chose, l'intention qui est là plus que ce qu'on a dit jusque-là, même dans d'autres expériences. Il y a quand même dans les témoignages qu'on a eus, dans l'intention ne serait-ce qu'alors c'est pas forcément comme explique lui régler des soucis, enfin tu vois avancer, c'est pas seulement ça, mais dans l'intention je pense qu'il y a aussi l'envie d'être en contact.
Les gens sont quand même fort acteurs de ce qu'ils vivent.
On n'a pas eu de témoignage de vraiment de personnes sur qui ça tombe et qui savent rien faire, enfin, qui construisent rien à partir de ça. On dirait que chacun construit quand même quelque chose par rapport à avec ce qui se passe. On cherche à construire ou à répondre. Il disait bien que les anges gardiens, il les appelle, il pose des questions, il attend des réponses. Il n'a jamais dit que les anges gardiens apparaissaient comme ça. Il se bat quand même. Le truc arrive et apparemment, ben si, il y a une action quand même de... Enfin, il se passe quelque chose, quoi.
Je n'ai peut-être pas tant d'importance que cela. Disons que, tout seul, je n'existe pas. Je vis dans un monde très vaste ou très petit. Et pour me rencontrer, vous devez avoir comme un désir de voyager.
Il y a dans les rêves, il y a des, peut-être quelques personnages qui vont revenir, ou en tout cas qui m'ont tellement marqué, qu'elles sont toujours là. Sans que j'aie besoin de dialoguer avec, ou... mais ça c'est une inspiration. Ok ? Du coup, j'essaye de les faire vivre d'une certaine manière. Enfin, j'essaye, ça vient naturellement, donc plutôt par la musique, par des écrits. Donc le rêve fait vraiment partie d'un monde où, en tout cas, pour moi, qui est le terrain de rencontre avec les quasi-personnes, dans le sens où j'essaye aussi d'analyser ça en me disant ben, il y a des moments où je suis très terre-à-terre, et puis dans le milieu du rêve, ou quand on va dire je rêve éveillé, là, il peut y avoir des choses qui apparaissent. Or, dans les rêves, en fait, ce n'est que moi qui raconte. Tous les personnages, c'est moi qui les fais, quoi. C'est moi qui les crée. Les ambiances, c'est moi qui les crée. Les sons, les atmosphères, enfin, tout dans les rêves, c'est moi Le rêve, ce n'est qu'une sorte de fiction qui va compléter... Qui va compléter certaines choses que je n'arrive pas à expliquer et qui restent incomprises aussi, hein, fatalement. Quoi. Le rêve, ça reste toujours un peu étrange. Quoi. Quelque part, il y a peut-être un chemin, une sorte de quête, hein, puisque moi j'aime bien enquêter. Enquêter, ben, il y a enquête. C'est vrai que quelque part, où vas-tu, hein, d'une certaine manière. Et est-ce que tu arrives, c'est quelque part, est-ce que tu arriveras à revenir chez toi, à revenir. Donc rentrer, c'est plus... Oui, c'est rentrer à nouveau, quoi. Donc revenir... Quelque part, quand on cherche quelque chose, on cherche toujours à revenir chez soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire revenir chez soi ? Ben, c'est revenir quelque part où une atmosphère est créée, où on sent bien, où on est de nouveau dans... Et pour moi, ça rejoint quelque chose vraiment de l'ordre du cosmos, de quelque chose qui nous dépasse complètement, en fait. Hein. Ce serait une sorte d'épopée, de grande épopée, un voyage pour en arriver à ça, quoi, à se dire simplement, ben, en fait, on est bien ici. Et comment arriver à mélanger toutes ces... à agencer nos propres idées pour créer ce climat qui fait qu'on est bien là, en soi, ici, maintenant, parmi tout ce qui nous entoure. Au final, est-ce qu'on n'habite pas partout, nulle part ? Voilà, c'est tout ça en fait. C'est rentrer chez soi, où est-ce qu'on est bien ? C'est un peu tout ça. Quoi.
Ils ont découvert plusieurs versions des mondes où je pouvais exister. Ce qui les forçait chaque fois à trouver la façon de s'y guider. Tout n'était pas... chaque fois recommencer, mais manifestement, j'introduisais suffisamment de troubles, de surprises et des turbulences affectives.
Mais ça nous apporte un sentiment de bien-être, un sentiment de protection. C'est chaque fois un sentiment. On n'est pas on n'est pas protégé. C'est compliqué. On sait qu'on n'est pas protégé. C'est un sentiment de protection. Ça nous apporte aussi, moi j'ai compris, une connexion.
Oui.
Et en plus aussi, il parlait de choses positives, mais aussi de choses négatives. Parce qu'il a même dit qu'on pouvait en être... pas terrorisé, il a employé un autre mot.
Traumatisé.
Non? Oui, traumatisé. Oui. Moi j'ai vu beaucoup de choses négatives et je n'ai pas. Et j'ai tellement été justement. Très affectée, très terrorisée, que je n'ai pas voulu aller plus loin.
C'est ça.
Donc, je n'ai pas vu les choses positives. Mmh. Ouais. Et je le regrette. Hein.
Il explique bien qu'une fois qu'on a vécu cette connexion-là, même si quand on revient dans le monde ici matériel, on ne la vit pas tout le temps, on sait que c'est comme s'il savait qu'elle était là. Et donc on se sent à chaque fois moins seul. Ce que ça apporte, je pense, c'est ça. Il se sent moins seul parce qu'il pressent quelque part qu'on est tous tout le temps connectés, même si on n'y accède pas tout le temps. Donc je me disais, dans ce que ça apporte, je me disais, ça fait barrage à contre certaines choses aussi.
Comment ça?
Ben, on dirait que la présence, pour certains de quasi-personnes, repousse des choses qui sont inconfortables.
Il y a finalement tellement de versions de ma présence qu'un moment, je laisse vivre les gens avec moi. Il me semble qu'il arrive un temps où ils créent quelque chose qu'ils n'arrivent pas très bien à nommer. Quelque chose d'assez puissant, où il mêle ce qui existe et ce qui n'existe pas, ou qui n'existe pas encore, bien sûr.
Moi, je parle à des gens de ma famille qui sont mortes, comme une confidente ou un confident. Je parle pas à ces gens-là ou quand les moments sont difficiles. Ou comprends-moi, ou j'ai tendance... Même parfois, je ne parle pas toujours, c'est dans la tête que ça se passe. On me confie, et ah, si tu étais là, tu verrais que ça va bien, ou quand ça va mal, tu m'aiderais peut-être, ou etc. Ne te tracasse pas. C'est léger, c'est pas beaucoup, voilà, c'est pas tout le temps. Mais c'est pas désagréable du tout, et ça fait du bien, et ça aide dans la vie. Je crois que tout un chacun en a besoin, quand on est seul, de parler... à quelqu'un, et même je crois que ça arrive à tout le monde, de se retrouver seul dans une voiture, dans un bus chez soi, et de parler à quelqu'un qui n'existe pas, qui matériellement. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que ça rassure? Est-ce que ça donne une force? Ça donne une force. On n'est pas tout seul, voilà. Et ce qui est céleste, qui est au-dessus de nous, qui est inexplicable, qui est... C'est comme croire à la vie après la mort. Et... C'est que j'y crois quelque part un petit peu, puisque je parle à des gens qui sont morts. et je me confie ou j'en parle, je me rassure, etc. Ça aide, voilà. Ça aide, ça... Ça permet de continuer à avancer, voilà, je crois. Parmi les vivants, et voilà. Et on n'oublie pas les gens qui sont morts. Ils ont existé, ils existent toujours, on les fait vivre. Ils vivent à travers nous. Voilà. Il y aurait des tas de choses à dire là-dessus.
Et quelque chose en plus. J'ai pas un terme, mais c'est quelque chose en plus. On parle à des quasi-personnes, je pense que c'est rassurant, c'est... Il y a quelque chose en plus, on a quelque chose en plus. Voilà. Parce qu'on parle souvent que les gens, quand ils entendent des voix, ils ont de la souffrance. Mais ça peut être bien aussi. Ça peut, j'entends une voix comme la voix de ma conscience, et qui me donne une discipline de vie, et c'est positif, quoi, sans être pour autant.
Ce serait sans nom, là où j'habite.
Je suis pas toujours à la recherche de quelque chose précisément, mais quand je suis quelque part, je suis souvent intrigué d'être. Me laisser imprégner par ce quelque part, cet endroit. Alors, ce n'est pas que l'espace, parce que l'espace est toujours habité par toutes sortes de choses, que je ne sais pas toujours moi-même ce que c'est, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas toujours besoin de savoir, mais plutôt de ressentir et aussi d'être à l'écoute. Prendre l'exemple de mes grands-parents ou d'une compagne, il y a déjà maintenant quelques années, mais j'ai l'impression qu'ils ils habitent dans les sons que j'écoute d'une certaine manière. Et aussi le son parfois est habité, hein, peut-être par des choses que moi je teinte, hein, comme un écho finalement, hein, comme deux pierres qu'on jette dans l'eau et les rayons se croisent, se touchent, se mélangent, tout ça. Et tout ça m'a amené un petit peu, en tout cas moi, à avoir envie de croire en quelque chose qui est plus de l'ordre d'une forme de mystère, quelque chose de mystérieux, qui n'a pas besoin d'avoir de nom, mais qui peut en avoir plusieurs, finalement, pourquoi pas. Qu'on peut appeler Dieu, que certains l'appellent de plusieurs noms, parce qu'ils ont plusieurs dieux. finalement, ça peut être un peu les deux aussi, finalement, pourquoi pas. Moi, j'appelais ça plutôt une espèce d'énergie créative, quelque chose qui... quelque chose qui, en tout cas moi, qui me relie un petit peu à ce que je suis amené à rencontrer un peu dans ma vie, que ce soit des personnes, des lieux, les deux, évidemment, parce que je rencontre toujours des personnes dans des lieux, mais même aussi les imaginaires des autres, par rapport à l'histoire de la jeune fille... aux êtres imaginaires, mais aussi comment parfois dans ma famille ou dans mes proches, les autres parlent de leur quasi-imaginaire, par leur culture, leur histoire. Je me rappelle de ma belle-mère qui fait souvent des références quand elle croise des petits papillons blancs qu'on croise parfois un peu comme ça au hasard, et qui souvent fait référence au fait que c'est des esprits qui viennent nous visiter,
oui, c'est
des choses comme ça. Et c'est des choses moi, que je trouve précieuses. Qui sont je pense qu'ils renforcent et je ne me sens pas je ne me vis pas seul, je ne me sens pas seul non plus, mais même quand j'étais seul parce qu'à un moment donné je vivais seul, je ne me sentais pas seul car intrigué, je n'en aurais sûrement pas parlé comme ça à cette époque là par justement toutes ces choses qui plus j'avance pour moi sont reliées, en fait. Mais je pense qu'elles ont toujours été, mais peut-être moins à même de percevoir ce lien, je crois.
Toutes les quasi-personnes à qui moi je pense, etc., mais ce n'est pas de la même façon que j'aurais envie de cohabiter. Tu vois ce que je veux dire?
Je vais vous laisser maintenant, parce que la suite de l'histoire ne dépend plus de moi. Ça dépend de vous, les pleinement personnes. Ça dépend de la façon dont vous voulez vivre ensemble. avec ou sans moi. Mais je crois de toute façon que ma présence est inévitable.
Comment les gens vivent avec ça, comment ils partagent ça, et comment quelqu'un qui n'a, qui ne vit pas ça le reçoit.
J'ai l'impression qu'ils se comprennent parce qu'ils sont parlés. Il n'y a pas véritablement de dialogue. Quelques mots, quelques gestes.
Il doit ou me toucher ou me voir. S'il ne me voit pas, il est
perdu.
Perdu.
Mais oui, mais c'est ça, la vue et le geste, quand il faut qu'il te touche.
Ce qui est amusant, c'est que ça prend tout le monde dedans.
Oui.
Oui.
Et quelque part, tout le monde contribue à faire exister aussi ça. Oui. On a eu à une époque un membre de Rover qui avait une moto imaginaire. C'était pas toujours facile. Mm-hmm. Pour aller faire les courses, il fallait garer la moto avant d'aller au DDS. Oui, parce que sinon, il faisait le geste dans le DDS avec la moto. Voilà. Mais ce qui était amusant, c'est que tout le monde était entré dans le truc et c'est tout juste si on ne voyait pas effectivement la moto aussi. On rentre un peu dans le truc, quoi. C'est tout à fait. Ça n'avait pas l'air perturbant, sauf évidemment quand certains disaient mais il n'y a pas de moto, ça n'existe pas. Donc quand on fermait la porte brutalement, là on sentait que pour la personne c'était difficile.
La petite souris qui vient apporter un petit cadeau à un jeune enfant qui a souvent perdu une petite dent. Et souvent, il la met dans une petite boîte, l'enfant, et il la cache dans sa chambre. Et quelques heures après, ou un jour après, il y a une petite souris qui est passée par là, qui est venue apporter un petit cadeau, qui a pris la dent et qui a apporté un petit cadeau. Mais ça peut être une petite friandise, un fruit. Ça peut être un peu déçu aussi, oui, mais c'est gentil quand il s'apporte un soutien, je veux dire, parce que l'enfant qui a perdu une dent se sent un peu mal à l'aise, il n'en revient pas de perdre ses dents alors qu'il a souvent 5-6 ans sur ses dents. Mais, et la souris vient apporter une marque de soutien, je veux dire, en faisant changer les idées des enfants, je veux dire, ils changent un peu, ils sourient, comme on dit, hein. C'est la petite souris, hein.
Moi, je m'interroge aussi sur cette souffrance, justement. Est-ce qu'elle vient vraiment du fait d'être accompagnée d'une voix, d'une quasi-personne qui est trop comprante, ou est-ce qu'elle vient aussi du fait que on est vu comme, la plupart du temps, ayant quelque chose qui diffère de la norme en fait, hein, et que depuis le départ on met quand même vite le qualificatif pas normal là-dessus, donc d'où vient vraiment la souffrance en fait, voilà. Est-ce que c'est vraiment les voix qui sont si terribles ou le fait que depuis toujours on t'ait dit ce n'est pas normal d'entendre des voix?
Moi, après ce qu'on a écouté là ce matin, là maintenant, c'était le respect, quelque chose qui m'apporte de la joie d'entendre que j'ai entendu, et aussi une certaine forme d'excitation, je sais pas, ça a quelque chose d'excitant, le mystère, chez
moi. Moi je me suis sentie proche et en confiance, pas du tout dans la peur de ce que j'entendais, je pense que ce qu'il disait au début, je suis sentie en relation en fait avec ce qui se fait. Et à côté de ça il y a toute une part de mystère. Il y a des images qui sont sont des images qui font partie de ce qu'on appelle mystère. Il y a la religieuse, il y a un petit livre, il y a l'au-delà. Voilà. Il y a beaucoup d'images, moi, qui me viennent visuellement.
Moi, j'ai senti du réconfort et de l'intimité, quelque chose d'intime, qui ne m'appartient pas tout à fait, donc... Mais en fait, une forme de réconfort et d'intime, une forme de connaissance. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à connaître l'autre autrement. Et c'est ça qui est quelque part réconfortant, quoi. Ah, toi aussi, tu entends des choses un peu de cet ordre-là, quoi.
Il y a une question aussi qui me traverse comme ça un peu, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Être en contact avec des quasi-personnes dans tout ce que ça apporte de troublant, parce qu'on sent quand même qu'il y a un trouble. Ou est-ce que c'est de nouveau dans le fait de ne pas pouvoir partager, ou que quand on partage, ça ne se passe pas bien dans le partage? Mmh. Est-ce que c'est le regard posé là-dessus qui fait du mal? Est-ce que c'est vraiment de vivre qui fait du mal? C'est toujours un peu cette question-là. Ça revient toujours à ça. Comment est-ce que c'est pris? Il y a sans doute rien de plus violent que dire à quelqu'un qui vit une expérience aussi intime et forte. C'est ton imagination, t'es
tout. Oh, c'est ça.
Ah, c'est très violent.